liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 19, année 2015. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Donc le grand retour de Nicolas,
oui.
Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Donc pour fêter ça, Manu va nous donner le sommaire. Et c'est fou comme on innove. Hein.
Et oui, hein, alors c'est un petit sommaire. On est encore dans les semaines du début de mai. Donc on profite du beau temps et on n'a pas beaucoup d'actualité finalement. Donc on va quand même parler de crowdsourcing, les DRM, la réforme du droit d'auteur, la réforme du TTIP qui est même pas encore en vigueur, la loi sur le renseignement et le brevet unitaire, encore un truc européen.
Libération, miracle et mirage du crowdsourcing, un article de Karen Ford, qui est une tribune, hein. Karen Ford n'est pas une journaliste, mais une universitaire. Et le crowdsourcing, c'est l'idée d'aller récupérer des informations, des données auprès de la foule. Et l'article est plutôt pas mal parce qu'il montre les différentes formes qu'on peut avoir. Et elle cite notamment des gens qu'on connaît.
Bah, effectivement, il y a le crowdsourcing très connu. En fait, les gens ont des idées, un peu un projet, ils vont se lancer pour récupérer des fonds. Et c'est crowdfunding, voilà. Mais ça, c'est voilà, c'est un peu le même concept en fait, mais version travail plus intellectuel, plus.
Le gros exemple et le principal exemple de crowdsourcing, c'est Wikipédia.
Et puis une bonne partie d'Internet, hein, où forcément tout le monde contribue, mais les sites de Facebook, c'est du crowdsourcing. D'une certaine manière, où les gens viennent contribuer de leur travail.
Oui, ça me semble assez contestable parce que les gens, ils mettent juste leur truc à eux. Il n'y a pas cette idée de construire quelque chose tous ensemble. Mais
bah, parle-en avec Zuckerberg, tu vas voir ce qu'il en dit. Lui, il est enchanté du travail qu'on fournit pour sa plateforme. Mais effectivement, Wikipédia, oui, c'est quand même le truc noble et beau par excellence.
Voilà, mais il y a aussi bah, toutes les dérives, hein, puisque il y a malheureusement des branches qui sont formées et où bah, on est payé des misères pour faire des boulots complètement délirants.
C'est ce qu'Amazon propose, voilà, c'est un truc Amazon assez peu connu. Voilà. Chez Amazon, qui est une sorte de bourse au travail où on va proposer des micro-tâches et n'importe qui dans le monde va pouvoir prendre cette micro-tâche et être payé avec un micro-revenu pour faire cette tâche-là. Et on sait que derrière, bah, en général, c'est des gens qui sont vraiment dans la misère. Et avec ce système de micro-tâches, on a finalement peu de contraintes parce qu'on peut ne pas payer si on trouve que la qualité est pas là, etc. Il y a à peu près aucune protection pour ces travailleurs. Et donc, c'est le côté négatif hein, sur lequel l'auteur s'étend assez longuement.
Et puis, en plus, ils trouveront toujours de la main-d'œuvre bon marché hein, pour aller récupérer ces projets-là. Donc, forcément, les tarifs ont tendance à baisser. Il y aura toujours quelqu'un pour aller se faire payer une misère pour faire ça.
Donc c'est assez négatif de ce point de vue-là, hein, c'est clair. Donc Karen Ford, maîtresse de conférence Paris-Sorbonne, et elle est dans un groupe de travail sur ce sujet-là au CNRS. Donc allez jeter un œil sur l'article et les liens. Il y a des choses pas mal hein, quand même.
Oui, alors il y a quand même des trucs positifs hein, dedans, parce que là, c'est vrai que le côté négatif, elle le met en avant, mais elle a raison, parce que c'est quand même des choses qu'il faut avoir en tête. Mais elle cite quand même Regard Citoyen, qui avait, avec l'aide de 8000 bénévoles, permis de mettre sous forme de base de données des informations, notamment sur les déclarations de revenus et de capital des élus de l'Assemblée nationale. Donc tout ça arrive sous format papier, c'est scanné. Donc évidemment, c'est inexploitable. Et en faisant une petite appli, les gens qui étaient intéressés, moi j'en ai fait quelques-uns, pouvaient arriver et dire voilà, j'ai lu telle chose dans telle case et tout ça. Et donc on construit une donnée utilisable, et donc de ce machin qui sert à rien, qui est du papier, on construit quelque chose qu'on peut exploiter. Et ça, c'est fort. Et effectivement, d'un point de vue citoyen, c'est vachement intéressant. Mais voilà, comme tu le fais remarquer, ça peut très mal tourner.
Bah, il y a du business derrière, voilà, ça finit généralement assez mal.
Actualité.com, le DRM, la mauvaise réponse au partage simplifié d'un e-book, un article de Nicolas Gary.
Alors, je saute tout de suite sur l'article. Luc, de quoi il s'agit ?
Je sais pas trop. alors, il y a déjà une photo qui montre un petit livre où c'est écrit le DRM efface vos livres.
Et puis un petit peu aussi la vidéo que t'as
faite. Voilà, une vidéo que j'ai faite. Alors, si vous voulez voir à quoi on ressemble, il y a Manu, Magali, qui a participé très rarement, qui est notre secrétaire, et moi-même, dans la vidéo. Donc, si vous voulez voir nos têtes, c'est l'occasion. Donc, c'est une petite vidéo qu'on a faite sur les DRM dans les e-books. Pour expliquer qu'un e-book avec DRM, donc les DRM, c'est des systèmes qui vont verrouiller, contrôler l'usage qu'on va faire du fichier, les copies, ce genre de choses, on n'a pas un livre qu'on perd plein de droits par rapport à un vrai bouquin. Et donc là, l'auteur bah, creuse, site, on en parle souvent, on le cite parce qu'il est vraiment très pertinent sur ces sujets-là, bah, il va creuser et donner des éléments plus précis.
Mais la vidéo est très bien faite, hein, puisqu'on prend tous les problématiques des DRM avec la disparition des livres à distance, les problèmes que bah, on n'est pas propriétaire de ce qu'on achète, mais on est juste locataire, qu'il y a des conditions générales d'utilisation bah, qui sont très compliquées. Donc voilà, c'est assez didactique, c'est très bien foutu et encore merci d'ailleurs pour ce tournage.
Merci à toi. Bon, enfin bon, là mes chuilles vont bientôt exploser, donc on va peut-être passer à la suite. Hein, si vous voulez voir cette vidéo, sur le site de l'April, april.org ou sur le site d'actualité qui a fait ici un bon article et qui nous a bien relayé. Lemonde.fr, réforme du droit d'auteur, piratage, Bruxelles dévoile son agenda numérique. Un article de Cécile Ducourtieu. Donc on parle régulièrement de ce truc, hein, c'est un peu le serpent de mer, c'est ça vient pas. On sait qu'en France, la réforme du droit d'auteur est un chantier, la loi sur le numérique, etc. sont des chantiers qui sont repoussés systématiquement, on en parlait la semaine dernière. Et au niveau européen, ils sont en train de pousser ça.
Voilà, et puis bah il y a plein de choses, hein, on en parlait du rapport Reda, on parlait de plein de choses comme ça, et donc bah là, ils ont enfin donné un planning en fait, essayer de poser des jalons de ce qu'ils veulent faire pour essayer de fixer justement les objectifs et dire aux gens de commencer à réfléchir sur le sujet, publier des rapports et autres. Donc là, les dates sont enfin connues et donc on verra bien ce que ça va donner. Hein, puisque c'est...
Franchement, ça va donner pas grand chose parce que tout simplement, il y a plein d'ayants droit, notamment, qui vont se battre contre une uniformisation au niveau européen de toutes les règles qui encadrent le droit d'auteur. Parce que ça va être une uniformisation où on va ouvrir vraiment, on pourra regarder une chaîne de télé française en Roumanie et vice versa. Et ça, c'est pas supportable certaines entreprises.
On l'a vu par exemple avec le rapport Reda. Hein. Le rapport Reda était pas trop mal à la base, mais c'est vrai qu'il y a des grosses campagne de lobbying de la part des majors et des ayants droit et donc qui retire toute la substance de ce rapport-là. Je pense qu'effectivement ça donnera la même chose avec tous les sujets qui seront abordés là-dedans et ça risque d'être un joli massacre.
Moi ce que j'aime bien c'est que pour une fois il y a un côté où là c'est le bon côté qui attaque, qui propose des choses et les autres qui sont en mode défensif, mais bon c'est juste qu'ils défendent de manière très agressive quand même.
Alors le bon côté, il faut voir, hein, c'est la Commission européenne, on l'avait cité notamment par rapport au rapport Reda où il y avait, où on s'étonnait parce que la Commission européenne c'est eux qui avaient mis en avant ACTA. Tous ces trucs-là, en général, ils sont pas tellement favorables au sujet. Eux, ce qui les intéresse dans cette affaire, c'est de faire un gros marché. Hein. Ils sont vraiment dans cette logique de marché, c'est tout ce qui les intéresse. Et donc, il y a un des sujets qui est la question du piratage, du contrôle de la copie, du partage, etc. Et je pense qu'ils sont tout à fait capables de nous faire des trucs assez dégueux à ce titre-là. Euractive, Bruxelles s'attelle à la réforme du mécanisme d'arbitrage du TTIP, un article de la rédaction. Donc TTIP, on le connaît sous un autre nom.
Oui, c'était TAFTA, SOPA, PIPA, enfin tous les bons vieux trucs qu'on a déjà essayé de dégommer et qu'on a réussi même pour la plupart.
Donc les traités transatlantiques.
Voilà, c'est les fameux traités transatlantiques qui sont négociés dans le plus grand secret, donc avec les ministres qui se réunissent dans l'abri de tout regard et autres. Et donc c'est une espèce de grosse refonte de plein de choses bien mélangées.
Et avec, justement, voilà, ça touche le droit d'auteur notamment.
Les droits d'auteur, les problèmes du commerce, l'interopérabilité, les DRM, les brevets logiciels, enfin plein de choses, c'est un vrai micmac énorme. Et donc là, la commission s'attelle sur la problématique en fait du règlement des différends. Oui. Comment est-ce qu'on choisit quel état ou quelle entité va avoir le droit de régler un différend ? Parce qu'aujourd'hui, les boîtes choisissent l'endroit le plus intéressant pour elles. Elles vont se planquer dans des paradis fiscaux ou juridiques et puis en disant, si vous voulez porter plainte, il faudra aller en Californie ou aux Bahamas ou je ne sais où encore. Et là, Bruxelles dit, ce serait pas mal que les territoires nationaux aient le pouvoir là-dessus. Et
c'est de le pousser. Un des gros problèmes avec TAFTA, c'est que, effectivement, ces litiges doivent être réglés devant un tribunal dit arbitral, c'est-à-dire c'est tout sauf un tribunal, c'est un truc avec des professionnels du commerce, des ingénieurs ou des choses comme ça, ce ne sont pas des magistrats. Et avec cette idée que ce sont des trucs où seules les entreprises peuvent attaquer les États quand leur politique remet en cause leurs investissements. Donc la société civile est sortie du coup, et c'est vraiment à sens unique. Hein. Donc ça pose des tas de problèmes, ça fait hurler. Donc l'article précise qu'effectivement il y a eu des mouvements en disant il faut changer cette forme là, ça passera pas comme ça, mais on sait pas trop ce que ça va donner. Donc là en gros l'histoire c'est que c'est la responsable européenne qui rencontre son homologue américain en disant qu'est-ce qu'on va se mettre comme institution pour régler ça. On sait pas trop, hein, l'article le dit pas, mais ça veut pas dire que ça va être très satisfaisant, ce sera peut-être moins pire que le tribunal arbitral prévu initialement, mais on a toutes les chances de se retrouver avec un espèce de machin qui n'est pas la justice, qui est un truc privé avec des droits complètement
oui, avec des représentants des majors qui vont être très présents,
oui, avec un déséquilibre
très déséquilibré, donc
avec certains qui ont le droit d'attaquer les autres et les autres qui n'ont pas le droit d'attaquer, qui peuvent juste se défendre, et d'autres en gros nous qui n'existons pas dans l'équation, ce qui est juste insupportable. Donc en tout cas ces trucs avancent et il faut qu'on garde un œil dessus et qu'on reste mobilisé. Sled.fr, largement adopté par l'Assemblée, la loi sur le renseignement a divisé le PS comme l'UMP, un article de Grégoire Brandy.
Voilà, en termes de citoyens virés de la boucle et de la justice qui disparaît, on est en plein dedans.
Donc te dénoncer.
Voilà. Attention. J'assume déjà d'être un crypto-terroriste. Donc pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'était le fameux projet de loi renseignement qui a été voté le 5 mai à l'Assemblée nationale. Donc c'est en gros, suite aux attentats et tout ça, le gouvernement a dit faut qu'on fasse quelque chose. Et donc ils ont sorti une loi ultra-liberticide avec la surveillance massive.
Qui est en préparation depuis deux ans.
Qui était en préparation depuis deux ans. mais voilà, donc maintenant il y a de la surveillance partout, ils ont le droit d'aller mettre des petites boîtes noires à peu près là où ils ont envie, aussi bien chez les hébergeurs, dans vos maisons, dans vos voitures, etc. Tout ça sans aval d'un juge, sans juridiction compétente pour dire s'il y a des dérives ou pas.
Il y a une super commission.
Il y a une super commission qui sert à rien, moi j'ai déjà fait appel à la CNIL, on voit les réponses que ça donne, et en gros c'est circuler, il n'y a rien à voir.
Ouais, alors c'est une commission qu'ils doivent consulter, sachant qu'ils ne sont pas obligés nécessairement de faire ce qu'elles demandent, ouais. Et que s'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas besoin de la consulter.
Voilà, et donc bah, malheureusement, il y a eu une grosse campagne de communication et pour alerter les députés là-dessus avec plein d'associations qui se sont bougées, mais malheureusement la loi est passée avec seulement 86 frondeurs qui ont voté contre. Tout le reste, les 577 députés ont voté pour ou se sont abstenus.
Et... ça a pas si mal marché, hein. Il y a un autre article voilà. De Numérama où Valls se plaint des pressions de la société civile. Ouais. On sait pas où on est. la société civile fait des pressions sur les hommes politiques. Sur les hommes politiques. C'est vraiment insupportable. Je comprends qu'ils se plaignent.
Ouais. Ouais, non, mais c'est fou. Valls, il a également dit à ce sujet, non, mais il y a pas de débat.
C'est ça comme
pas,
ça.
Ouais. Ce type n'est que premier ministre. Que il a pas son mot à dire sur ce qu'il doit faire débat ou pas. Enfin, normalement, c'est un peu le principe d'une démocratie. Et moi, ça me rend dingue. Enfin.
Bah surtout que, bon, d'habitude, on est habitué à voir les majors ou autres à se bouger. Là, on a quand même vu Reporters sans frontières, Amnesty International, la Fondation des droits de l'homme, les juges, la presse, les journalistes, enfin, tous les gens qui, d'habitude, ne bougeaient pas. Et
les avocats aussi.
Et les avocats. Ouais. Et voilà, tout le monde était dans la rue pour dire que ça allait être un vrai massacre.
La CNIL.
Ça allait être un vrai massacre républicain. Et puis, bah voilà, c'est quand même passé.
Alors, l'article, il reprend un peu tout ce qui s'est passé quand même du point de vue des partis. Et il montre qu'il y a eu des différences entre les partis à l'intérieur des partis eux-mêmes, et il reprend les anciennes lois, et il essaye de revoir un petit peu ça à l'aune de cette organisation entre partis. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de frondeurs à chaque fois? Et là, il semblerait qu'il y a quand même une démarcation. Il y a eu des gens à droite, des gens à gauche qui ont voté contre, et ils n'étaient pas forcément dans un bloc initialement.
Ouais, grosso modo, il y a l'Europe Écologie Les Verts qui étaient plutôt globalement opposés au projet, et donc qui ont plutôt massivement voté contre. Et après, il y a eu quelques frondeurs côté PS et côté UMP, et c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à voir autant de contre parmi les rangs-là. Il y en a quand même quelques-uns qui ont suivi, mais ça reste quand même ultra minoritaire. Ça doit faire un quart de l'Assemblée nationale qui est contre ce projet, et c'est quand même assez dramatique.
Ouais, ce que je regrette, c'est que la liste de qui a voté pour, qui a voté contre, qui est publique, hein, moi je l'ai sauvegardée dans un coin, n'a pas suffisamment circulé à mon goût. Moi je pense que c'est un truc qu'on devrait avoir sous le coude, et la prochaine fois qu'on croise son député, enfin, savoir ce qu'il a voté pour le jour.
Il y a un site qui a été monté, hein, ouais. Qui référence ça et qui s'intitule Internet n'oubliera jamais. Il a sauvegardé ça, donc on peut rechercher par son département qui c'est qui a voté contre ou pour, et donc je pense qu'on se souviendra leur bon souvenir pour les prochaines élections.
C'est quoi Internet n'oubliera jamais?
C'est Internet n'oubliera jamais de mémoire.
Donc allez voir ce site pour voir ce que votre député a voté et demandez-lui quelques comptes là-dessus. Ça vous fera un sujet de conversation, je pense, assez intéressant.
Et puis bah, maintenant, il va falloir s'attaquer au Sénat parce que là, c'était l'Assemblée nationale. Et donc, bah, y a le Sénat qui commence et donc on reprend les mêmes et on va se remettre à les recontacter et voir s'ils peuvent faire bouger les choses. Ça a l'air de bouger un petit peu plus, mais bon...
Il y a le Conseil constitutionnel, hein, qui sera l'étape ultime. Certains se sont abstenus en disant ouais, mais c'est bon, ça passera au Conseil constitutionnel. Vu comme c'est sale, je vais pas moi prendre position. Je vais laisser le Conseil constitutionnel faire, ce qui, bon, je comprends pas trop la logique, mais bref. L'opinion, le brevet unitaire européen est conforté. Un article de Hugo Sedouraman. Donc brevet unitaire, c'est ce système qui vise à simplifier le système de brevets en Europe, ça a l'air cool, mais qui est aussi un cheval de Troie pour remettre du brevet logiciel, essayer de le remettre en place, et en filant des prérogatives à l'Office européen des brevets, qui n'est pas une institution européenne, qui est encore une espèce de machin privé un peu louche. Et donc l'Espagne était contre, hein, puisque l'idée c'est de simplifier le nombre de langues qu'il faut, dans lesquelles il faut traduire les brevets, et là...
Ils se sont fait jeter, hein, donc la Cour a dit, bah vous avez pas votre mot à dire là-dessus, donc... Vous êtes obligé d'appliquer cette loi-là, et donc voilà, vous n'avez pas à vous opposer, on ne peut pas prendre en compte les langues de tous les pays pour les traductions.
Alors on avait l'impression que c'était un petit peu en perte de vitesse. Bon, on verra ce que ça va donner, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour cette loi-là. Et ben, on a fait le tour de cette revue de presse.
À la semaine prochaine tout le monde.
Ouais, salut à tous.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vinault.